Bien, ouvrons nos Bibles et regardons de nouveau dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 11, ce chapitre que nous parcourons depuis quelques semaines, un chapitre riche en ce qui concerne la foi. Et nous avons défini la foi comme le contenu ou bien la révélation de Dieu concernant le Seigneur Jésus-Christ et l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Ces deux vont toujours ensemble, Christ et Christ crucifié. Et nous sommes en train d'étudier un chapitre qui tire tous les exemples de la foi révélée de l'Ancien Testament. Cela nous montre qu'il y a une seule foi unique de tous les élus de Dieu que les Écritures nous révèlent. C'est de ça que l'apôtre Jude parlait ou bien écrivait dans son épître, Jude 1, le chapitre 1, verset 3, « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter notons à combattre pour la foi qui a été transmise au saints une fois pour toutes. » Donc, quelle que soit l'époque où ceux qui sont les élus de Dieu, appelés les saints, justifiés par le sang du Seigneur Jésus-Christ, ce que tous les élus partagent ensemble, c'est cette foi unique qui concerne Christ et Christ crucifié. Donc, nous avons déjà étudié, commençant par Abel, et puis Enoch, puis Noé, et puis Abraham et Sarah. Nous parcourons doucement ces versets. Nous arrivons cette fois-ci dans les versets 20 et 22, où je voudrais que nous étudions ensemble la foi d'Isaac, de Jacob et de Joseph. C'est écrit, c'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü. Notons, en vue des choses à venir, c'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. Et puis le verset 22, c'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. Alors, qu'est-ce que ces trois avaient en commun entre eux, cités ici, encore, c'est la foi. Dans Éphésiens chapitre 4 et le verset 5, Paul parle de cette foi unique que partagent tous ceux qui sont élus de Dieu. C'est écrit, commençant dans le verset 3, « Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » C'est-à-dire que si Dieu nous a choisis et Christ est mort déjà pour tous nos péchés, donc la paix a été déjà établi depuis la croix entre Dieu et ses élus. C'est là qu'il y a eu la réconciliation. Et puis par l'Esprit, lorsque l'Esprit appelle chacun pour qui Christ a donné sa vie, chaque élu entre maintenant en communion avec le Père, avec le Fils, mais aussi avec les autres qui forment ce corps spirituel de Christ. Et donc, nous sommes exhortés à conserver l'unité de l'esprit. C'est-à-dire que nous ne devons pas chercher des querelles avec d'autres qui sont membres de ce corps de Christ, parce que Christ a déjà nous a déjà unis dans cette paix. Et puis, il dit, verset 4, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance de votre vocation. C'est pourquoi nous pouvons même retourner dans l'Ancien Testament et regarder ces exemples que nous voyons dans Hébreux chapitre 11, ceux de l'Ancien Testament qui faisaient aussi partie de ce même corps, appelé par le même esprit de grâce à Christ, et ayant une seule espérance par leur vocation, leur appel. Et c'est écrit, verset 5, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y en a qui, voyant ce mot baptême, ils identifient ça avec le baptême de l'esprit, d'autres le baptême d'eau. Mais je crois dans le contexte, il faut comprendre ce baptême étant la souffrance du Seigneur Jésus-Christ, appelé un baptême de feu, qu'il a dû endurer afin que les élus aient en lui, dans ce baptême-là, un seul baptême, une seule souffrance, une seule mort de Christ pour le salut de ses élus. Et donc ainsi, verset 6, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Voilà cette foi unique que nous étudions ensemble. Donc, commençons, revenant dans notre texte, dans Hébreux chapitre 11, verset 20, par la foi d'Isaac. C'est bien écrit, c'est par la foi qu'Isaac bénit. Et c'est intéressant ici, c'est écrit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. Nous savons que la Bible nous dit que Dieu a aimé Jacob, mais il a haï Ésaü. Donc, quand il s'agit ici d'une bénédiction, où Isaac a béni Jacob et Ésaü en vue des choses à venir, c'est certain que ce que Isaac voyait en ce qui concerne les choses à venir n'était pas la même pour les deux. Pour Jacob, il prophétiser une bénédiction pour sa postérité, qui était en fait Israël, et une postérité qui devait finir par le Seigneur Jésus-Christ. Voilà la bénédiction qu'Isaac a donnée à Jacob. C'était dans ce sens. Donc lorsque c'est écrit qu'il a béni Jacob, c'est en vue de cette postérité qui devait venir de lui, c'est-à-dire la postérité de Christ. Mais en ce qui concerne Ésaü, on peut se demander quelle bénédiction alors est-ce qu'il réservait pour Ésaü. Et là, on doit dire simplement que c'était des bénédictions temporaires. C'est-à-dire qu'Ésaü était un pécheur réprouvé par Dieu, et même plus clair que ça, la manière que c'est écrit dans Romains chapitre 9, haï de Dieu. Il y a d'autres qui, en entendant cela, sont révoltés en imaginant que Dieu peut aimer certains pécheurs et en même temps haïr les autres. C'est comme une femme qui demandait à un prédicateur un jour, mais comment ça se fait-il que Dieu a haï Ésaü? Et le prédicateur a bien répondu, il a dit, je n'ai pas de problème à comprendre comment Dieu a pu haïr Ésaü, étant moi-même un pécheur qui ne mérite que la colère de Dieu. Mais ce qui m'éveille, merveille, c'est de savoir comment Dieu a pu aimer un pécheur comme Jacob, parce que nous savons l'histoire de Jacob, il n'était pas mieux qu'Ésaïe. Mais voilà encore comment Isaac, ayant le même esprit qu'Abraham, le même esprit de Dieu, a pu prophétiser en ce qui concerne les deux, Jacob et Ésaïe. Et comme les choses à venir qui concernaient Jacob n'étaient pas encore visibles. Voilà encore la foi, comme le verset 1 le dit dans notre chapitre 11, est une ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'est-ce que Dieu avait déjà révélé à Abraham et puis maintenant à Isaac et puis maintenant à Jacob concernant ce qui devait venir? C'était une révélation de Christ. Toutes ces prophéties que nous voyons ici étaient des choses qui concernaient la venue du Seigneur Jésus-Christ et comment Dieu devait préserver cette postérité d'Abraham et d'Isaac et de Jacob pendant des années jusqu'à, comme nous lisons dans l'épître de Paul aux Galates, lorsque le temps fut accompli, c'est-à-dire encore selon ce que Dieu lui-même a promis, qu'il a envoyé son fils, né d'une femme. Cela retourne jusqu'au jardin où Dieu avait promis la postérité de la femme qui devait écraser la tête de la postérité du serpent. Mais né sous la loi, parce que durant toutes ces années, les enfants d'Israël n'ont pas pu obéir à la loi. Donc, il fallait que Christ vienne et lui-même prenne charge, la charge de son peuple sous la loi et obéit parfaitement, non seulement la lettre de la loi, mais l'esprit de la loi. Et donc, afin, comme c'est écrit dans Galates 4, 5, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi. Cela comprend nous tous. Je n'étais pas encore né à cette époque, mais cette même loi qui dominait sur les enfants d'Israël qui n'ont pas pu obéir me concernait aussi. Et si Christ n'était pas venu pour prendre cette charge sur lui-même et d'obéir non seulement les préceptes de la loi, mais aussi de se soumettre à la pénalité de la loi, c'est-à-dire la mort, on n'aurait pas aujourd'hui la rédemption. Mais il a fait tout cela afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel écrit Abba Père. Voilà cette foi qui unit tous ceux qui sont véritablement les élus de Dieu. Mais ici, lorsqu'il s'agissait d'une bénédiction d'Isaïe, le monde est plein de ceux qui sont sous la colère de Dieu et pour qui Christ n'a pas versé son sang. Il n'est pas mort pour le monde entier comme les faux prédicateurs prêchent. Mais néanmoins, ceux-là, nés dans ce monde, bénéficient des bénédictions quotidiennes de la main de Dieu en ce qui concerne les choses temporaires. C'est-à-dire, ils vivent leur vie dans ce monde avec un certain confort. Et pour beaucoup, je dois dire qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux-mêmes. Ils sont en quelque sorte insensés à tel point qu'ils ne sont même pas troublés par le péché. Et ils vivent chaque jour en bénéficiant de l'air qu'il respire et en travaillant du succès des produits du sol ou du succès dans leurs entreprises sans même réfléchir ou donner gloire à Dieu. Ils ne sont pas comme ceux qui sont élus de Dieu, en qui l'Esprit de Dieu agit, troublé nuit et jour par leur état de péché. Mais je préfère être un de ceux-là en qui l'Esprit de Christ réside, mais par la lumière de Christ continue à me convaincre de mon péché et tourner mes regards vers celui qui est venu mourir pour ses péchés, que d'être laissé à moi-même, comme dans le cas d'Ésaü et sa postérité, qui ont bénéficié. Il y a toute une nation qui est sortie des reines d'Ésaü. On les appelle les Édomites, Édom. On lit de cela dans les Écritures. Et comme une nation était prospérée selon cette bénédiction de Jacob, ou d'Isaac plutôt, mais ce n'était que des bénédictions terrestres et temporelles et qui ont, dans leur histoire, échappé à la servitude dans le temps. Cette nation n'a jamais été assujettie à la servitude en Égypte comme Israël était. Et donc, certains regardant cela peuvent dire, mais au moins, ils étaient bénis dans ce sens, oui. Mais tout cela a été aussi selon la volonté de Dieu. Mais lorsque c'était pris par la foi, parce que c'est la même phrase qui se répète, que ce soit pour Isaac, verset 20, pour Jacob, verset 21, et pour Joseph, le verset 22, c'est par cette foi, voilà ce que les trois partageaient, et c'est ainsi qu'Isaac a béni Jacob. Il a prédit d'une manière prophétique les bénédictions particulières que chacun devait recevoir. Mais en cela, nous voyons la souveraineté de Dieu aussi, parce que c'était le plus jeune, qui était Jacob, qui était favorisé à l'aîné. Nous pouvons consulter Genèse chapitre 27, et c'est de ça que l'auteur aux Hébreux se réfère. Genèse chapitre 27, et nous n'avons pas le temps de lire tout le chapitre, mais c'est à partir du verset 6 que nous voyons que Jacob devait être béni par son père Isaac. C'est écrit dans le verset 1 que Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné. Et ça, c'est un point à souligner que Isaac avait des affections pour Ésaü. On peut dire même peut-être plus que Jacob. Et lui dit, mon fils, et lui répondit, me voici. Isaac dit, voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc. Va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Maintenant, nous voyons Rebecca qui s'intervient et elle écouta, verset 5, ce qu'Isaac disait à Ésaü son fils, et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant sa mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre un troupeau de bons chevaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, voici Esaü, mon frère, est venu et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur et je ferai venir pour moi la malédiction et non la bénédiction. Et sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi, écoute seulement ma voix et va me les prendre. Et Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère qui fit un mets comme son père aimé. Et ainsi de suite, nous savons cette histoire, comment Jacob a été béni par Isaac, trompé par l'odeur du poil des boucs qui ont été tués, mais aussi par le mets qui lui a été préparé, qui était semblable à ce que Esaü devait lui apporter. Et donc, ainsi de suite, il a fini, verset 30, de bénir Jacob. Et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Esaü, son frère, revint de la chasse. Et lorsqu'Esaü attendait la bénédiction de son père, alors il a dû apprendre qu'Isaac avait déjà béni Jacob. Et d'autres peuvent peut-être poser la question, mais pourquoi Rebecca s'est intervenue pour que Isaac bénisse Jacob et non pas Esaü? C'est parce que c'est à elle d'abord que la révélation a été faite que l'aîné devait servir, ou bien le plus jeune devait servir l'aîné. Alors, on peut dire que même Rebecca ici agissait par cette foi, cette révélation. Quand nous comparons le commentaire, surtout dans le Nouveau Testament, parce que c'est lorsque Rebecca était enceinte de ces deux et qu'il y avait cette lutte dans son sein que ça a été révélé que le plus jeune devait dominer l'aîné. Et Paul prend ça comme un exemple de la souveraineté de Dieu dans Romains chapitre 9 de notre ce passage. C'est écrit dans Romains 9, le verset 10, « Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac, notre père, car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que, notons, le dessein d'élection de Dieu subsista, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. » Voilà ce que je voulais que nous voyons, verset 12. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Alors ici, on peut dire que, quoique Isaac savait la volonté de Dieu, mais par affection pour Esaü, il cherchait quand même à bénir Esaü d'une manière que Dieu lui-même n'a pas ordonnée. Donc cette intervention de la part de Rebecca pour qu'il bénisse Jacob n'était autre qu'accomplir le plan de Dieu en ce qui concerne cette postérité de Jacob. Cela, si on avait le temps aussi, on pouvait retourner jusqu'à Genèse chapitre 25 et le verset 23. D'ailleurs, dans le verset 22, les enfants se purtaient dans son sein. Genèse 25, 23. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, c'est intéressant qu'il a communiqué sa volonté à travers Rebecca, la femme d'Isaac. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Et c'est exactement comme cela que cela s'est passé. Donc, en lisant cela, on peut peut-être poser la question, mais comment alors, par la foi, est-ce qu'il a béni Jacob? C'était en fait malgré lui. Parce qu'il avait l'intention de donner cette bénédiction à Ésaü. Pourtant, c'est à travers ce qui s'est passé qu'Isaac maintenant a compris qu'il ne pouvait pas aller contre ce que Dieu avait déjà ordonné. Et au lieu de bénir Ésaü, comme c'était son intention, il a fini par bénir Jacob. Et c'est ainsi que Dieu, et c'est pour ça que je dis que si quelqu'un a véritablement cette foi, toute la gloire revient à Dieu. C'est ainsi même dans nos vies. Si nous sommes à Christ, ce n'est pas par nos propres désirs ou volontés que nous sommes arrivés là, mais c'est Dieu par son esprit qui nous a sujettis à Christ afin que nous arrivions à renoncer tout ce que nous imaginons avoir en nous-mêmes et que nous confions uniquement au Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est par la foi. Encore, c'est par Christ qu'Isaac bénit Jacob et a fini par séparer cette bénédiction, les bénédictions spirituelles appartenant à Jacob, mais les bénédictions temporelles faisaient partie de la bénédiction d'Ésaü. Donc c'est par Christ, quand je lis ça par la foi, c'est à cause de Christ, en vue de Christ, que cela s'est passé ainsi, en vue des choses à venir. La foi en la bénédiction d'Isaac est entrée après que la tentative d'Isaac de contrecarrer la volonté de Dieu. Cela nous montre que cette foi qu'Isaac avait était le don de Dieu par sa grâce et ne résidait pas en lui-même, comme c'est le cas pour nous tous. C'est Dieu, par sa grâce, à cause de Christ, qu'il nous soumet à sa volonté. Alors, cette foi, alors de Jacob, c'est le deuxième que nous voyons dans le verset 21, c'est par la foi que Jacob, ayant déjà vu la manière que Dieu a ordonné à ce qu'il soit béni, c'est par cette même foi que lorsqu'il mourait, qu'il a béni chacun des fils de Joseph. Jacob a mené une vie assez charnelle en ce qui concerne sa vie. Et nous pouvons voir beaucoup de détournements de sa part dans sa vie. Pourtant, il était l'objet de la grâce de Dieu. Et voilà encore un exemple que la manière de personne que Dieu sauve, c'est des pécheurs. Nous pouvons nous-mêmes témoigner de cela dans nos vies. Ce n'est pas parce que nous avons vécu une vie parfaite, non. Nos vies ressemblent exactement à la vie de Jacob. Pourtant, maintenant, nous le voyons dans sa vieillesse, après d'années de parcours, mais béni quand même de Dieu. Dieu avait toujours sa main sur lui. Et nous le voyons ici, c'est écrit s'appuyant sur le dessus de son bâton. Donc, il était dans un état très faible. Et il mourait, comme c'est le cas de tous ceux qui sont élus de Dieu. Si Christ ne revient pas d'abord, à la fin des temps, pour amener auprès de lui ceux qui sont encore vivants, nous allons tous traverser cette mort physique, parce que nous sommes des pécheurs. Mais quelle bénédiction de pouvoir mourir, sachant que nous sommes des bénéficiaires de toute bénédiction spirituelle en Christ, et que même si nous mourons physiquement, que nous avons cette espérance que donne cette foi, des choses meilleures qui sont les nôtres à cause de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est voilà cette foi que nous voyons ici dans le verset 21 qui soutenait Jacob, non seulement durant sa vie, mais jusqu'à sa mort. Et ici, il a béni, c'est écrit, chacun des fils de Joseph. Ce que nous savons de Joseph, il était béni de Dieu et nous sert aussi de type du Seigneur Jésus-Christ. Comment ses frères l'ont vendu en esclavage, mais le Seigneur l'a préservé. Il a fait monter maintenant en autorité en Égypte afin de pouvoir sauver sa famille et Jacob inclus dans sa vieillesse. Mais lorsqu'il était mourant, donc proche à la mort ici, il avait cette foi de la même manière que Dieu l'avait soutenu. Lui, Jacob, à travers sa vie, il savait aussi que Dieu tiendrait sa promesse de donner à sa postérité cette terre promise que Dieu avait promis à Abraham. Et ainsi, il a béni les deux fils de Joseph, en particulier lorsque c'est écrit dans le verset que nous lisons, il bénit chacun des fils de Joseph. Si vous regardez dans le livre de Genèse, chapitre 47 et le verset 31, et voilà le lien que nous avons entre cette épître aux Hébreux et puis l'Ancien Testament. Tout ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament nous sert comme esquisse de la manière que Dieu sauve les pécheurs. Et nous voyons ici dans Genèse chapitre 47, en particulier, et le verset 31, Jacob dit, jure-moi. Et Joseph lui jura. Puis Israël se prosterna sur le chevet de son lit. Ici, c'est écrit qu'il s'appuyait sur le dessus de son bâton, mais les deux peuvent être vrais, qu'il se prosternait, il s'appuyait sur le chevet de son lit, tout en s'appuyant aussi sur son bâton, tellement il était en faiblesse. Et qu'est-ce qu'il avait demandé? En particulier, en ce qui concerne Joseph, il a dit dans le verset 30, « Quand je serai couché avec mes pères, tu me transporteras hors de l'Égypte et tu m'enterreras dans le sépulcre. Joseph répondit, je ferai selon ta parole. Mais Joseph n'avait que deux fils. Et donc ici, revenant dans notre texte, lorsqu'il mourait, qui bénit notamment chacun des fils de Joseph. Un de ses fils était Éphraïm, de qui est sorti le tribu d'Éphraïm, qui était le plus jeune, et l'autre était de la tribu de Manassé. Donc voilà les deux fils. Manassé était l'aîné. Pourtant, comme avec Jacob et Ésaü, c'est le plus jeune qui devait dominer et être plus puissant que Manassé, l'aîné. Tout cela était selon la volonté de Dieu. Et donc, sachant, et cela même est prédit, lorsque Joseph devait prendre le pouvoir et servir comme un sauveur pour sa famille en Égypte, cela a été prédit déjà ici que Jacob mourait, qui bénissait chacun de ses fils de Joseph, c'était en vue de cette postérité qui devait sortir de lui et par qui maintenant la postérité devait continuer. Lorsque c'est écrit aussi un mot-clé dans notre texte, Hébreux 11, 21, et qu'il adora. Peut-être que nous ne savons pas exactement ce qui nous attend allant de l'avant, mais ce que nous savons, c'est que Dieu est souverain et qu'il accomplira tout ce qu'il a promis, et pour cela, nous pouvons l'adorer. Alors, c'est cette foi, cette même foi en vue de l'accomplissement des promesses de Dieu, même après sa mort, nous voyons cette même foi que le Seigneur lui avait donnée, de préserver à travers lui une postérité et de faire venir cette postérité dans le pays promis, exactement comme nous lisons dans le livre d'Exode. Dieu a tout accompli à travers Moïse et puis Josué. Tout cela sont des types du Seigneur Jésus-Christ pour l'accomplissement de ses promesses. Et puis, le verset 22, pour finir, c'est écrit, c'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. Donc, c'est par la foi, ce même Joseph, a mentionné le départ des enfants d'Israël. Ça, nous voyons dans Genèse chapitre 50. Et de la même manière que Jacob avait demandé à ce que, lorsque Israël serait sorti d'Égypte, qu'il serait enterré et en dehors du pays. De la même manière que Joseph maintenant, dans Genèse chapitre 50 et le verset 24, il a fait la même requête. Genèse 50, Joseph dit à ses frères, 24, « Je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Et c'est ainsi que Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, « Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes os loin d'ici. » C'est ainsi que Joseph mourut, âgé de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Mais on ne l'avait pas enterré là, en vue du fait que Lorsque Dieu accomplirait sa promesse de faire sortir Israël d'Égypte des années plus tard, plus de 200 ans plus tard, mais néanmoins, lorsque Israël est sorti, ils ont emmené avec eux les ossements de Joseph, comme il a demandé. On peut peut-être se poser la question, mais quelle importance était-il du fait qu'il voulait que ces os soient apportés hors du pays pour être enterrés dans le pays promis? Je pense deux choses. Et voilà l'importance. Premièrement, c'est pour lui, c'était pour Joseph, un symbole de sa propre délivrance spirituelle d'Égypte, en anticipant que il ne devait pas mourir et rester identifié avec Égypte qui représentait l'esclavage. Mais sa délivrance lorsqu'Israël est sorti d'Égypte et par l'agneau pascal, que c'était pour lui aussi une délivrance, que même si ce n'était que ses os, que lui, il s'identifiait avec ce peuple que Dieu a délivré d'Israël. Et encore, par la foi, c'est en connexion avec la révélation de Dieu concernant le Seigneur Jésus-Christ et le sabre qu'il avait en vue du fait que Israël devait être délivré et lui s'identifier avec ce peuple. Dans Hébreux chapitre 9, et le verset 15, nous lisons, et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une alliance nouvelle, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, il s'agit ici de la mort de Christ, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Donc, Joseph savait qu'il devait mourir, mais il savait aussi qu'il ne devait pas rester identifié avec les Égyptiens. Mais son regard était plus loin même que la délivrance d'Israël d'Égypte, mais en vue de cette délivrance qui devait l'appartenir lorsque Christ lui-même est venu pour payer sa dette comme les autres. Et voilà, lui-même, le fait qu'il voulait que ses os, quand on regarde les os, on dit, mais c'est la mort. Pourtant, il avait en vue une vie future qui n'était pas de ce monde et qui était attachée à ce que cette terre représentait, la terre promise, d'où Christ devait venir bien d'années plus tard et accomplir son salut, comme c'était le cas pour les autres. Job, qui est le plus ancien des patriarches, si on peut bien dire, avait cette même espérance dans Job chapitre 19. Il parle dans son écrit de cette espérance dans Job chapitre 19. Et lorsqu'il avait cette espérance, quand il dit, cherche exactement le verset où il a dit, quand il, sa peau se détruirait, voyons dans le verset 25, Job 19, quel que soit ce qui se passait, que sa chair physique, il dit, verset 25, je sais que mon Rédempteur est vivant. Christ n'était même pas encore venu. Pourtant, il était là depuis l'éternité comme celui que Dieu avait élu pour être le Rédempteur. Et voilà cette foi qui lui a été donnée, qu'il serait parmi ceux-là que Christ, lorsqu'il serait venu, allait payer sa dette et ressuscité, le ressuscité. Mais je sais, verset 25, que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Ça parle là de sa venue dans la chair. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Alors, c'est cette même foi qui a été donnée aussi à Joseph en vue de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Il y a beaucoup d'autres points qu'on pouvait souligner là-dessus, mais ce que nous venons de voir, ça nous démontre que quelles que soient les faiblesses de ces hommes-là, quand on les appelle hommes de foi, ce n'est pas parce qu'ils étaient mieux que d'autres, non, mais ils étaient des objets de la grâce de Dieu. Et cette foi qui leur a été donnée, c'était en vue des choses à venir, en vue de l'accomplissement du Seigneur Jésus-Christ et de son œuvre à leur égard. Et c'est la même foi que Dieu nous donne. Moi-même, personnellement, je n'ai pas encore vu le Seigneur physiquement dans cette chair, mais j'ai cette même espérance que cela. Que même si je dois mourir et ma chair n'est plus, j'ai cette espérance de voir mon Dieu dans l'éternité. Et l'espérance qu'un jour, ce corps sera ressuscité. Et je serai à jamais, corps et âme, dans la présence du Seigneur Jésus-Christ, à qui nous donnons toute la gloire. Alors que le Seigneur bénisse cette parole que nous venons d'entendre. Amen.